Bienvenue sur le cours de F6KGL. Et donc ce soir, nous allons voir le chapitre 3 de réglementation et on va parler de l'alphabet international et du code Q. Alors, première remarque, c'est que c'est un chapitre qui est, vous allez le voir, assez facile. Il y a des choses à apprendre, oui, mais ce sont des choses simples, il n'y en a pas trop, c'est assez facile à s'en souvenir. Et surtout, c'est très intéressant, ça rapporte beaucoup de points. En règle générale, sur ce chapitre-là, il y a au moins 5 questions. Et je dis en moyenne, s'il y a des chapitres où on peut faire des impasses, ce n'est pas celui-là.
Ah oui, oui.
Hein? Donc voilà, faut y aller, c'est simple, ça s'explique très simplement. Donc voilà, la seule chose, c'est qu'il faut faire attention, c'est qu'on a des différences entre les pratiques du trafic et la règle qu'il y a à apprendre. Donc ceux qui ont l'habitude d'écouter du trafic, attention, faut se rapprocher à chaque fois de la règle.
Je veux dire
le code Q, c'est
le truc officiel.
Voilà, on se raccroche au truc officiel et pas au langage radio amateur.
Ouais, parce que très souvent on change.
Voilà, on a changé la signification. On a changé la signification et on oublie la signification primaire.
C'est-à-dire que ça se rapproche dans ce cas-là des cyclistes.
Oui.
Bouche-poule-à-ouette.
Voilà. Ah, mais ça, c'est pas du code Q, ça. Non, on va pas apprendre toutes les conneries qu'on peut avoir. Alors, je vais virer ça. Hop. Eh bien, on va commencer par la table d'épellation internationale. Donc, pour rappel quand même, cette table, elle a été adoptée par l'UIT. Donc, c'est une norme internationale en 1956. Donc, ça date pas d'hier. Et elle n'a pas bougé depuis 56. Donc, ça fait 70 ans. Enfin, pas tout à fait, 65 ans. Que c'est comme ça. Auparavant, pour votre information, c'était d'autres codes d'épellation et qui étaient avec des noms de villes ou de pays. Par exemple, A c'était Amsterdam, B Baltimore, C Canada, etc., etc., etc. Si bien qu'il y a toujours des et F comme France. Et si bien qu'il y a toujours des gens qui utilisent cette vieille table d'épellation, même si ils n'étaient pas nés quand elle a été abandonnée. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est donc cette table d'épellation. Évidemment, c'est une table internationale et elle est plutôt avec des mots anglais, tout au moins d'origine anglo-saxonne. Et donc, c'est l'orthographe anglaise et la prononciation, évidemment, mais on ne va pas vous demander de les prononcer, enfin, on ne va pas faire un test d'accent, hein, vous n'êtes pas obligé de forcer l'accent. Mais par exemple, uniforme, on ne dit pas uniforme, on dit uniforme. Hein, avec l'accent, avec la prononciation anglaise. Bon, il n'y a guère que ce mot, et puis c'est pas novembre, c'est November. Avec un superbe accent anglais comme j'ai.
Le E est avant le R.
Voilà, le E est avant le R. Donc on va voir toutes ces lettres. Une par une. Comme vous le voyez, c'est un alphabet, enfin, ce sont des orthographes anglaises, donc il n'y a pas d'accent. Roméo, il a perdu son accent aigu. D'ailleurs, j'ai tout mis en majuscule. Oui. Juliette, elle a perdu son E au bout. Voilà, donc, et même chose, on ne dit pas Mick, on dit Mike. Voilà,
On
donc,
dit Foxy, on dit Foxtrot.
Voilà, on dit Foxtrot. Enfin, bon, voilà, donc ce sont tous les... Voilà, il y a des tas de... ce sont toutes les lettres de l'alphabet. Vous remarquez que on ne parle là que des 26 lettres de l'alphabet romain. Pourquoi? C'est que ces lettres-là vont vous permettre de passer votre indicatif. Et votre indicatif, il sera formé des 26... Enfin, de quelques-unes des 26 lettres de l'alphabet romain. Pas de cyrillique, pas de caractère arabe non plus, voilà, ou grec, voilà. Que de l'alphabet romain. Et puis pas les caractères, par exemple, WS allemand, il n'existe pas.
Ah, le B,
enfin, l'espèce de, le S7, là, oui. Le WS allemand n'existe pas non plus. Voilà, et puis d'autres lettres, le WL catalan n'existe pas non plus.
Le zéro barré.
Ah, le zéro barré, ça c'est des chiffres. Et pour les chiffres, il y a aussi une table d'épellation des chiffres. Mais elle n'est pas au programme de l'examen. Bon. C'est-à-dire que quand vous donnez votre indicatif, quand vous donnez le chiffre, vous le dites, soit à la française, soit à l'anglaise, ou dans une autre langue, mais en tout état de cause, ce n'est pas, on n'utilise pas le code d'épellation pour passer un chiffre. Hein. Donc voilà, les 26 lettres sont A, alpha. Alors vous remarquez quand même que le alpha en français, c'est A-L-P-H-A. Là, on est revenu à l'orthographe anglaise, et même, je dirais, il n'y a que les Français qui mettent PHA. Hein. Partout dans les autres pays, c'est ALFA.
PHA Laval, qui est beaucoup installé dans les fermes.
Ouais.
C'est écrit comme ça.
Ben oui. B Bravo. Bon, là, voilà, tout le monde prononce Bravo de la même manière. C Charlie, D Delta, E Echo, F Foxtrot, G Golf, H Hotel, I India, hein, c'est pas India, c'est India, encore une fois prononciation anglaise, J Juliette, Ki Kilo, et pas kilowatt, hein, c'est kilo tout court, L Lima, M Mike, donc là c'est le I anglais, N November, O Oscar, P Papa, Q Québec, R Roméo, S Sierra, T Tango, U Uniforme, ou Uniforme, mais bon, plutôt Uniforme, V Victor, W Whiskey, et pas Whisky, hein, les connaisseurs, ils font la différence entre les deux.
Il y en a un qui est folaté, pas le
monde. Moi, je préfère le Whiskey, mais ça, chez chacun, chacun voit midi à sa porte, hein. X, X-Ray, Y, Yankee, et Z, Zulu. Alors, juste un truc pour Zulu, il n'y a que dans le texte français que l'on écrit Zulu comme ça. Parce que Zulu, ça s'écrit Z-U-L-U.
Oui.
Même si ça se prononce Zulu, donc en fait, là, c'est plutôt la prononciation qui est écrite et non pas le terme employé officiel dans la table d'épellation. Donc voilà, juste cette petite remarque qui permet de mieux prononcer peut-être le nom. Voilà, donc cette table, elle est à apprendre par cœur parce que évidemment, on va vous donner un indicatif et il va falloir traduire ça avec le code d'épellation et des pièges, bien évidemment. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, le A, on va vous mettre America, tant qu'à faire, et le F, on va vous mettre France. c'est des trucs assez classiques. Donc après, il suffit. Alors, ce sont des questions qui sont simples. Par contre, elles demandent un peu de concentration et elles sont assez longues finalement à répondre parce qu'il faut lire toutes les réponses et peut-être faire le jeu des 7 erreurs et éliminer ceux qui sont voilà. Et le piège aussi, c'est que parfois on rajoute une lettre ou on supprime une lettre de l'indicatif. Et donc dans la réponse, par exemple, si l'indicatif c'est FC6 ABC, on va vous dire Foxtrot 6, Alpha Bravo Charlie. Et on sent en supprimant le premier C, donc Foxtrot Charlie 6. Voilà. Alors, de même, ne cherchez pas des indicatifs crédibles dans les indicatifs proposés. La plupart du temps, c'est n'importe quoi. Et enfin, ça rassure un petit peu. Enfin, vous ne pouvez pas voir votre indicatif dans les questions ANFR. C'est fait pour quand même un petit peu quelque part. Encore une fois, le code d'épellation des chiffres, ça existe. Ce n'est pas au programme de l'examen. Et en tout cas, pas du tout utilisé par les radioamateurs. Donc il n'y a aucun intérêt. Deuxième sujet, donc celui-là, vite évacué. Alors désolé, c'est peut-être un petit peu dense. Voilà, faut régler les lunettes. Faut régler les lunettes. Je vais faire un petit zoom. Je vais faire un petit zoom. Donc, alors déjà, avant de faire le zoom, on va voilà, rappeler ce que c'est. Le code Q, en fait, c'était des codes utilisés au départ en Morse pour un petit peu fluidifier le trafic, c'est-à-dire pour faire en sorte que les opérateurs puissent facilement passer des informations qui n'étaient pas des messages pour les clients, quoi. N'oublions pas que sur les navires ou en aéronautique, le code Morse, ça servait évidemment à communiquer entre bateaux, mais ça servait aussi à communiquer les messages des passagers, notamment vers la Terre. Quand ils étaient en croisière, notamment, ou quand ils faisaient les traversées de l'Atlantique. Et ça, c'était très rémunérateur, puisque ces télégrammes, ils passaient par la radio, et donc les opérateurs étaient payés au mot. Et donc, ils avaient intérêt à plutôt passer des messages de clients, donc rémunérés, que de s'envoyer des informations entre eux. Et donc il y a tout un code qui a été mis en place. En tout, de mémoire, il doit y avoir presque 200 codes Q qui ont été définis. Ils ont été définis très très rapidement dans les années 30. Ils ont été donc définis et ils n'ont plus bougé.
Mais tu veux me redire la quantité de copies qu'il y avait?
Ouais, 150. Presque 200. Presque 200. Oui, mais il y avait des tas de codes Q que nous, on n'a pas repris dans notre trafic.
Le message correspond
Ah oui,
à
un Q, ouais. Ça allait. Ah oui, ça allait de QU à QO. Et nous, on a finalement, dans ce qui nous intéresse, on a quelques codes en QR, QS et QT. Mais il y avait auparavant, enfin avant le QR, il y avait le QU, parce que le QQ n'existait pas. C'était le QU. Et après, Ah non, avant c'était le QO, OPQ, donc le P n'existe pas, QP ça n'existait pas, QQ non plus. Pourquoi, je ne sais pas. Enfin, c'était QO.
Il n'y avait pas de praline avec ça.
Et après, à la fin, il y avait les QU. Plus des tas de codes comment dire, qui permettait de fluidifier le trafic. Hein. Mmh. Et qui était...
Ça voulait dire toute une phrase.
Ah oui, ça voulait dire toute une phrase. Voilà. Et donc, ces codes-là ont été repris par les radios amateurs en déformant un petit peu la signification du code. On n'est pas trop loin, mais ce n'est pas la définition exacte du code. Et donc, on va voir ces codes-là. Et à chaque fois, pour chaque code, soit il y a une question, donc le code QRA est suivi d'un point d'interrogation, dans ce cas-là, c'est une question. Et si c'est la réponse, eh ben, donc on met le code Q, et puis soit la réponse, ou alors une note, quand on va voir les différents cas de figure. Donc, je vais zoomer un petit peu pour que ce soit plus facile à lire. Voilà. Est-ce qu'on peut zoomer encore un coup? Ouais. Ouais, ça passe plus dans la fenêtre. Ouais, allez, hop. Un tout petit chouille de moins. Ah, tu veux pas? Non, ben non. Bon, ben, je vais... Deux fois, ça doit être bon, voilà. Donc, voilà, puis je vais remonter, voilà. Donc, nous avons... Alors, ces codes Q ont été repris dans le programme AREC, dont on a déjà discuté, le fameux programme européen. Et donc, dans la partie réglementation du programme AREC, il y a 22 abréviations qui ont été retenues et qui, évidemment, sont arrivées dans la réglementation française. Alors, il y en a 22 seulement sur les presque 200. Donc, voilà, il n'y en a pas tant que ça. On va les voir un par un, comme on a vu tout à l'heure le code d'épellation. On va voir le code Q. Donc, le premier, c'est QRA, premier de la liste, QRA. Et, alors, il faut bien vous souvenir que le code Q, c'est fait pour des professionnels et notamment le service radio maritime. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont être rattachées plutôt au service radio maritime et il ne faut pas oublier que ça s'adressait à des professionnel. Donc QRA, c'est quel est le nom de votre station? Parce que les professionnels, ils ont le nom de la station et l'indicatif de la station. Ce sont deux choses différentes. Enfin, c'est la même, la même chose. Mais il y a deux, nous, notre station, elle est définie par l'indicatif. Et sur un bateau, eh bien, le nom de la station, c'est le nom du bateau. Et le bateau, donc il a un nom, il a un port d'attache. Donc ce qui est donné, c'est le nom, et ce n'est pas l'indicatif de la station du bateau, qui est autre chose. Qui a plus la forme d'un indicatif radioamateur d'ailleurs, mais qui n'est pas un indicatif radioamateur, qui est un indicatif spécial pour les bateaux. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais sur les chalutiers notamment, mais ça c'est dans les vieux chalutiers, sur le toit de la cabine, il y avait écrit l'indicatif du bateau. Un indicatif à 4 caractères avec un F pour la France en début. Un petit peu comme les immatriculations des avions sur la queue des avions. Ça marche de la même manière. Donc QRA, quel est le nom de votre station? Et la réponse c'est QRA, et puis je donne le nom du bateau, hein, je sais pas quoi... comme nom, peu importe. Et donc, je mets QRA et le nom du bateau. Ça, c'est la réponse. Évidemment, dans le trafic radioamateur, QRA n'a rien à voir avec ça. QRA, c'est la maison. pour dire, voilà, je suis au QRA, je suis à la maison. QRG, là, c'est exactement la même chose que dans le trafic radio amateur. QRG, point d'interrogation, voulez-vous m'indiquer ma fréquence exacte ? N'oubliez pas que dans les années 30, la fréquence exacte, c'était très approximatif. Puisque...
Il n'y avait pas de numérique encore.
Voilà, le numérique n'existait pas et les calibrateurs à quartz existaient à peine. Tout au moins, ils n'étaient pas très, très, très fiables. Et donc, la réponse, et généralement, ça, c'est plutôt une station... c'est le bateau qui demande à une station terrestre qui est un peu mieux équipée et qui donc donne la fréquence exacte. Donc... QRG, je dis n'importe quoi, 1450. Ben, 1450 pour nous radioamateurs, c'est 1450 kHz.
Il peut recaler son vernier.
Et comme ça, il peut recaler son vernier plus facilement que de sortir tout son matériel pour recaler son, son émetteur ou son récepteur. Enfin, plutôt son émetteur d'ailleurs. QRH, peu utilisé, enfin quasiment plus utilisé maintenant. Ma fréquence varie-t-elle ? Et la réponse ou l'avis, ou c'est plutôt une remarque, là, en l'occurrence, du correspondant qui dit bah, « votre fréquence varie ». Sous-entendu, bah, vérifiez votre émetteur, il y a peut-être un problème dessus. QRK, ça c'est utilisé par les radioamateurs, mais pas du tout comme ça. QRK, quelle est l'intelligibilité de mes signaux ou des signaux d'un autre correspondant. QRK, on va le voir un peu après dans les commentaires, dans le langage radioamateur, c'est la puissance du signal. Donc, ça n'est pas du tout l'intelligibilité. Et donc, la réponse, c'est donc que vous avez une note comprise entre 1 et 5. Et c'est un petit, enfin, c'est exactement pour le RST. Alors, le RST, c'est le report, le fameux report que l'on donne à la station. Donc, le QRK, le premier chiffre. C'est l'intelligibilité. Sauf que nous, on appelle ça le QSA. Hein? Je te reçois QSA 5. Donc je te reçois avec une intelligibilité de signal excellente. Je te reçois bien, quoi. Et si c'est un QSA 1, bah, c'est très pourri. Ouais. Le 0 n'existe pas. C'est de 1 à 5. Donc voilà, QRK, on va le revoir après. Et évidemment, c'est cette signification-là qu'il faut apprendre pour le jour de l'examen. QRL, êtes-vous occupé ? Ça, c'est utilisé aussi par les radioamateurs. Êtes-vous occupé ? Et la réponse est, je suis occupé avec un tel, prière de ne pas brouiller. Voilà. QRM. Êtes-vous brouillé ? Vous remarquez que toute cette série-là, QRL, QRM, QRN, c'est un petit peu dans le même esprit, et QRK d'ailleurs aussi, c'est sur la qualité de la liaison. Donc QRM, c'est êtes-vous brouillé ? Brouillé, c'est donc être... gêné par l'émission de quelqu'un d'autre. Hein, c'est ça le brouillage. Et donc, encore une fois, le brouillage, c'est un code de 1 à 5. Alors là, qui est un petit peu inversé par rapport au QRK, c'est-à-dire que 1, c'est pourri. Là, le QRM, si je dis 1, c'est que je ne suis pas brouillé. Donc c'est la, comment dire, le QRM 1, c'est que j'ai pas de QRM. Alors que QRM 5, c'est que j'ai beaucoup de brouillage. Et voilà, moi j'aurais plutôt eu tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire être cohérent avec les notes du QRK. Ou tout au moins inverser peut-être le QRK aussi, c'est aussi très possible. Enfin, en tout cas, c'est pas, ça n'a pas, enfin, un QRM de 5, c'est très mauvais, quoi, en clair. Alors qu'un QRK de 5, c'est très bon. QRN, êtes-vous troublé par des parasites? Alors, des parasites, par rapport au brouillage, ce sont des brouillages, je dirais, naturels. Typiquement de l'orage, par exemple. Ça, le parasite, ou des parasites, peut-être, générés par
la mobylette du voisin.
Voilà, la mobylette du voisin, mais en tout cas, pas un appareil radio, quoi. C'est pas une station qui brouille, là. C'est soit un parasite, je dirais, humain, entre guillemets, ou alors un parasite atmosphérique.
Ouais.
Donc c'est QRN. QRO, QRP, qui vont bien ensemble. QRO, point d'interrogation, dois-je augmenter la puissance? Et l'avis, ou le tout au moins l'ordre, c'est augmenter la puissance. Et QRP, dois-je diminuer la puissance, point d'interrogation? Et QRP sans point d'interrogation, c'est diminuer la puissance. Ça, c'est... Et ça, ce sont des termes très utilisés par les radioamateurs. Hein, donc QRO, augmenter la puissance, QRP, diminuer la puissance. Évidemment, dans les questions d'examen, souvent on ne pose pas la question de cette manière-là, on demande plutôt le sujet. Et donc, par exemple, QRG, le sujet tourne autour de la fréquence exacte. Voilà. Quand on parle de QRK, on parle d'intelligibilité des signaux, etc., etc. Autre code Q. Allez.
QRK.
QRK, c'était l'intelligibilité. QRT, dois-je cesser la transmission? Et l'ordre, c'est cesser la transmission. QRU, avez-vous quelque chose pour moi? Sous-entendu un message à transmettre. Est-ce que je peux avoir quelques petits sous au passage? Et la réponse est, je n'ai rien pour vous ou je n'ai pas de message pour vous. QRX, à quel moment me rappellerez-vous? Ça, c'est très utilisé par les radioamateurs. QRX, c'est qu'on arrête parce que on a, je sais pas, le téléphone sonne, que sais-je, et donc on arrête un contact momentanément et on le reprend après. Donc c'est une pause dans le contact, on peut dire. Donc QRX, c'est à quel moment me rappellerez-vous? Et la réponse, mais ça, parce que c'est plus dans le cas d'un trafic professionnel, je vous rappellerai alors on met deux, voilà, QRX avec derrière des chiffres. Les chiffres peuvent correspondre à une heure, une fréquence, mais généralement c'est tellement évident qu'on passe que des chiffres. Et le correspondant comprend tout de suite que et la fréquence et l'heure. C'est pas la peine de rajouter à chaque fois kilohertz ou mégahertz, parce que la plupart du temps, les opérateurs radio, bah, ils avaient 3-4 fréquences, enfin tout au moins ils avaient 2 ou 3 bandes de fréquences, et à l'intérieur, bah, ils savaient du coup, où ils devaient écouter. QRZ, par qui suis-je appelé? Au cas où on ait mal compris l'indicatif du correspondant. Et la réponse, c'est vous êtes appelé par un tel, une autre station, sur une autre fréquence. C'est-à-dire qu'il y a un thème qui vous appelle sur une autre fréquence. Donc, veuillez y aller pour pouvoir écouler le trafic. Donc, ça a été, voilà, QRZ, généralement, ça ne peut être pour les radios amateurs qu'une question. Et rarement, on donne une... Enfin, on dit, vous êtes appelé sur telle fréquence. On peut le faire, mais rarement. QSA, ça, c'est le pendant du QRK. Donc, c'est quelle est la force de vos signaux. Et la réponse, c'est le QSA, c'est 1 à peine audible, donc pour la force des signaux, à très bonne, avec un numéro 5, enfin un chiffre 5 en note. Donc très bonne force des signaux. Vous remarquez que nous, radioamateurs, on va utiliser QRK, et que notre force du signal, c'est... Elle est graduée de 1 à 9 et c'est notre fameux S-mètre qui va nous donner cette puissance. Donc le S-mètre qui est plus ou moins bien étalonné, on verra ça quand on verra la partie technique. Mais voilà, nous on a gardé un code de 1 à 9 qui a été complètement abandonné par le code Q officiel. Très rapidement dans les années 30. QSB, la force de mes signaux varie-t-elle ? Point d'interrogation. Et l'avis ou la réponse est la force de vos signaux varie. Alors c'est pas trop la puissance de sortie qui peut varier. Enfin, pourquoi pas ? Mais c'est aussi ce que l'on appelle le fading. C'est-à-dire que c'est les conditions de propagation qui changent, qui fluctuent, alors plus ou moins rapidement, mais qui varient sur une minute, ça peut passer d'une force très importante à rien du tout, quoi. Donc le QSA peut être très fort à un moment, et une minute après, il n'y a plus rien. Et ça revient après, et ça c'est uniquement dû... à la propagation des ondes, qui est un peu aléatoire. Et c'est pour ça que QSA et QSB, dans le code Q, elles sont toutes l'une à côté des autres. QSL, alors QSL, ça, nous radioamateurs, QSL, on pense tout de suite à la carte QSL, c'est-à-dire qui permet de montrer qu'on a fait un contact. Mais pour un professionnel, c'est « pouvez-vous accuser réception ?» Concrètement, c'est quoi ? C'est que quand le message du client était passé, on accusait réception du message de l'autre côté, ce qui voulait dire qu'on pouvait facturer. Donc voilà ce pourquoi le QSL était important. Et évidemment, je vous donne accusé de réception, ça veut dire que je suis d'accord sur votre facturation. Puisqu'encore une fois, ce qui était payé, c'était au nombre de caractères transmis ou au nombre de mots transmis. QSO, pouvez-vous communiquer avec un tel ou par l'intermédiaire d'un relais, voilà, pour passer un message en fait, hein, QSO. Et QSO, dans le langage radioamateur, on a gardé que le mot communiquer. Nous, on a, enfin, je vois pas l'intérêt de demander est-ce que vous pouvez communiquer directement avec quelqu'un. Enfin, on fait un contact, point barre. Et la réponse, ou l'avis, c'est je peux communiquer avec telle station directement ou par l'intermédiaire de, et donc on donne le nom de cette station, mais deux noms de station l'une derrière l'autre, une pour dire je veux communiquer avec celle-là, la deuxième via telle station. QSP, alors ça c'est typiquement quelque chose professionnel. voulez-vous retransmettre à un tel ce message gratuitement ? Le QSP, par définition, c'est des pros. Nous, radioamateurs, je vois difficilement comment on pourrait retransmettre un message et le facturer. Voilà. Et donc la réponse est, je peux retransmettre à un tel ce message gratuitement. QSY, dois-je passer à la transmission sur une autre fréquence ? Ça, c'est très utilisé chez les radioamateurs. Et QSY, je passer à la transmission sur une autre fréquence ou sur, on donne la fréquence sur laquelle on demande de changer, finalement. Mais ça, c'est quelque chose qui est très utilisé dans les chez les radioamateurs. Et enfin, donc vous voyez, on a fait les QR, il y en a quand même pas mal. Les QS, il y en a un petit peu moins. Et les QT, il n'y en a que deux. Mais il y en a plein d'autres, hein, des codes. Donc QTH, ça va être très utilisé par les radioamateurs, mais pas du tout dans le sens qui est utilisé dans le trafic officiel. QTH, quelle est votre position en latitude et longitude ? Évidemment, QTH, nous, radioamateurs, c'est le nom de la ville où on habite, où on trafique. C'est le QTH. Évidemment, sur un bateau, c'est un petit peu difficile de donner un nom de ville, ou alors c'est le port quand on est au port. Mais voilà, le QTH, c'est la position en longitude et latitude. Donc, QTH, point d'interrogation, quelle est votre position ? Et QTH sans point d'interrogation, eh ben on donne la latitude et la longitude. Alors, plus ou moins précis, hein, là c'est selon le GPS qu'on a ou pas à bord. Et enfin QTR, et ça c'était très important sur les bateaux, quelle est l'heure exacte ? Puisque je rappelle quand même que l'heure... Ça permettait de déterminer justement la longitude.
Oui.
Voilà.
Ça se faisait au sextant.
Au sextant, voilà. Quand il y avait du soleil. Mais voilà, donc QTR, c'est aussi utilisé par les radioamateurs, mais c'était très important pour le service maritime qui permettait. Quand le GPS n'existait pas, parce que ça n'a pas toujours existé, les GPS, eh bien, il fallait faire le point et donc la latitude, et regarder la hauteur du soleil.
J'avais une table, moi, en fait, avec les principales étoiles.
Ouais.
C'était pour le navigateur dans le Super
Warfare. Ouais. Ouais, la nuit, ouais.
Voilà. Et il regardait par sa fenêtre.
Hop, ouais, ouais.
Pour son sextant.
Voilà, et puis il fallait qu'ils connaissent l'heure exacte aussi.
Bah oui, il avait...
Sinon, ça marchait pas.
Donc il avait sa montre à lui.
Voilà, il avait sa montre. Ah ouais, ouais.
Il naviguait comme ça.
Et en fait, l'heure, elle a été très rapidement donnée par les stations côtières. C'est-à-dire que les stations côtières, elles donnaient l'heure. Et puis, notamment, les fameux 3 bips là, de France Inter, c'était oui. aussi pour ça, pour synchroniser les bateaux, puisque je rappelle quand même que France Inter, Grandes Ondes, qui est arrêtée maintenant,
1829 mètres,
a été utilisé très longtemps, d'une part pour synchroniser les horloges des bateaux, et... pour la météo marine. Ça, on oublie, et maintenant, la météo marine, eh ben, faut avoir une carte. Enfin, ça se fait avec des cartes maintenant, mais...
Et un PC, surtout.
Et un PC, voilà. Alors qu'avant, ben, on écoutait le bulletin de météo de France Inter à 8h05, tous les jours.
Il rentrait sur je sais quoi.
Ouais.
Il avait les termes.
Donc la table, voilà, alors c'est pas 200, c'est 114, c'est déjà pas mal. code. Les QO, c'est plutôt le trafic maritime, et QU, c'est plutôt le trafic aéronautique. Et puis, donc la série QP n'est pas utilisée, ni la série QQ d'ailleurs. Et donc, nous, nos séries QR, QS et QT, il y a 77 codes. Donc, toutes les lettres de l'alphabet sont utilisées. Et il n'y en a qu'un seul code qui n'est pas défini, c'est le code QST. Ça vous dit peut-être quelque chose, c'est une revue de radioamateurs américains. Et en fait, l'origine du mot QST, enfin de ce nom QST, c'est que c'est le seul code Q qui n'est pas défini. Ne me demandez pas pourquoi il n'est pas défini. Je ne sais pas. Peut-être, et il n'a jamais été défini, peut-être que c'était un code qui restait en au cas où il y en ait, il y a un besoin, mais bon.
J'étais trop fier, on avait aussi le code Z.
Alors, il y a le code Z, et il n'y a pas qu'un code Z, ça serait trop beau. Il y a un code Z par armée.
Moi, j'étais dans l'artillerie de marine.
Enfin, par armée, par pays.
Oui.
Par pays. On revient. Tech. Donc, des exemples. QRO, point d'interrogation, dois-je augmenter ma puissance? QRO, sans point d'interrogation, veuillez augmenter votre puissance. QRU, avez-vous quelque chose pour moi? QRU, je n'ai rien pour vous. QRG, point d'interrogation, voulez-vous m'indiquer ma fréquence exacte? Et si je réponds QRG 14050, bah c'est que la fréquence exacte est 14050. On va supposer que c'est des kilohertz, parce que des mégahertz, ça irait très loin en fréquence, et ça m'étonnerait qu'on utilise le morse pour ça. Donc ça, il y a toutes les chances qu'on soit en kilohertz. QSA, point d'interrogation, quelle est la force de mes signaux? Et QSA 5, la force de vos signaux est très bonne. Donc c'est ce que l'on a dit, les pièges classiques. Sur le QRA, le QSO, le QSP, le QTH, qui ont des définitions plus restrictives et un peu différentes dans le trafic radioamateur. Et puis l'interversion des deux codes QRK et QSA. Alors ça, c'est difficile à expliquer pourquoi. J'ai cherché un peu partout, j'ai pas réellement trouvé une bonne explication. Ce qui est certain, c'est que visiblement ça s'est passé il y a très longtemps, très très longtemps, 1927. QRK et QSA, ils sont codifiés depuis l'origine, donc depuis l'origine du code Q. Code Q, ça a été défini en 1927. Pour que les communications entre les différents services radio puissent fonctionner, sans être obligé de... sans barrière de langue ou de pays. Donc, le code Q, c'est quelque chose international fixé par l'UIT. Qui s'appelait auparavant différemment, enfin ça s'appelait pas UIT au début, mais bon, peu importe, ça s'appelait les comités internationaux télégraphiques, je ne sais plus comment ça s'appelait. Enfin, ils se réunissaient et ils définissaient des normes. Voilà. Et lors de la conférence de Madrid, donc ça c'est 1932, il y a un document de travail qui est diffusé un peu partout et qui porte, puisque 1932, c'est le début de la téléphonie. Et on commence à parler du RST, c'est-à-dire de la codification des notes, des reports, donc que ce soit pour le morse ou pour la téléphonie. Donc en morse, c'est RST, et en téléphonie, c'est RS. Et l'idée, c'était d'avoir le même... type de codification, que l'on soit en téléphonie ou en télégraphie. Dans ce document, un document de travail qui n'a jamais été réellement publié, il y avait une coquille, donc une inversion des QRK et QSA. Et cette inversion, ces codes définissaient le RST. Et donc le QSA définissait le R du RST et le QRK le S du RST. Et pour information, il y a le I, donc le QRI, qui est la tonalité du morse, qui n'est pas d'ailleurs dans les codes Q à apprendre. Hein. Heureusement. Hein, il y en a.
Comme on veut, ça.
Hein ? Ah non, parce que le QRI, ça donnait des informations sur la qualité de la note. Est-ce qu'il y avait des piaulements ? Est-ce qu'il y avait des claquements ? Voilà. Et donc, le R, c'était la readability, donc l'intelligibilité. Le R, noté de 1 à 5. Le S, strength, la force. Et donc noté de 1 à 9, de 1 à 9, et non pas de 1 à 5 comme dit précédemment, et le T, tonalité, QRI, qui était aussi noté de 1 à 9. Alors que QRI, dans le code Q, il est noté que de 1 à 5. Donc ce document de travail, qui finalement a été très peu utilisé par les professionnels, et rester chez les radioamateurs, avec l'inversion du code Q. Donc c'est un petit peu le piège. Donc quand vous voyez QRK, souvenez-vous, c'est le R du RST. Et QSA, c'est le S du RST. Donc R, readability, S, strength, la force. Avec mon superbe accent anglais que vous avez remarqué. Les autres codes utilisés par les radioamateurs. Alors, il y a tout un tas d'abréviations. Il doit y avoir dans les documents que j'ai mis à disposition, les textes de réglementation, presque 3 pages de codes autres que le code Q, qui permettaient de fluidifier le trafic. C'est dans une recommandation UIT, la 1172, section 2, et il y a une partie de ces abréviations qui ont été reprises, enfin qui étaient reprises dans la recommandation AREC pour la partie Morse. La partie Morse, elle a été supprimée suite au fait que le morse n'était plus obligatoire sur les bandes décamétriques. Donc cette partie-là a été abrogée de la recommandation TR6102, mais comme le texte français était à l'époque un copier-coller de du texte AREC, évidemment, il y a une partie qui est arrivée dans le texte français. Tout au moins, cette partie-là, c'était dans la partie qui était consacrée à l'épreuve de Morse. Ce problème, c'est que cette épreuve de Morse, elle a été abrogée. Et, par contre, des questions sont restées. Voilà. Donc, vous avez droit régulièrement à des questions. Alors, heureusement, c'est pas sur l'ensemble des codes. Ça, c'était les codes en rouge. Là, c'est tous les codes qui étaient cités par cette réglementation. Et donc, le troisièmement, là, de cette recommandation, c'était la partie morse. Qu'est-ce qu'il fallait savoir ? Quelle était l'aptitude ? Quelles étaient les aptitudes à connaître en morse? Donc c'était déjà lire le morse, pas le manipuler, le lire, et deuxièmement connaître certaines abréviations. Heureusement, le code Q était plutôt dans la partie réglementation, mais commune, morse ou pas morse. Donc elle est restée celle-là. Mais le côté morse, bah, du coup, a disparu de la TR-6102, a disparu aussi enfin, du texte français, de l'arrêté du 21 septembre 2000, ça a été supprimé. Pour autant, bah, il y a toujours des questions. Et les questions, elles portent sur les quatre codes que j'ai surlignés là. Donc PSE, qui veut dire please, s'il vous plaît. SIG, qui veut dire signal. RX, qui veut dire récepteur. Et TX, qui veut dire émetteur. Les autres abréviations, il n'y a pas de question dessus. Alors peut-être qu'il y en aura, hein, j'y crois pas trop, mais je vois pas pourquoi il y en aurait. Mais voilà, toutes ces abréviations, étaient citées dans le texte français. Mais ça a été, ça fait partie d'une partie abrogée. Et donc la question qui revient le plus régulièrement, c'est que signifie PSE? Et c'est pas le plan de sauvegarde de l'entreprise. C'est s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, petite information, il y a des tas d'abréviations qui existent. Alors, elles sont la plupart du temps issues, enfin, pour le code Morse, parce que le Morse, le problème, c'est que
C'est chiant pour
c'est
toi.
chiant à transmettre, donc on essaye de condenser. Alors, il y en a certains qui prennent leur pied, donc on ne va pas non plus les critiquer, mais voilà, on essaye d'aller au plus vite. Et donc, bah, la plupart des abréviations, tout au moins celles qui sont ici, citées ici, la plupart du temps viennent de l'anglais, quand même. Hein, le K, je ne vois pas pourquoi le K, invitation à transmettre, là, ne me demandez pas pourquoi. R reçu, je comprends. Voilà, donc les autres abréviations là, UR, ben voilà, c'est YOR, ça c'est, on comprend,
D'accord.
voilà, mais après c'est les autres, ce ne sont que des abréviations, CW c'est de l'anglais aussi, hein, donc c'est onde entretenue, continuous wave. CQ, alors CQ c'est du français. N'oubliez pas que CQ, ça fait partie, ça, des procédures de trafic d'urgence sur les bateaux, les fameux, les Mayday, etc., etc. Enfin, il y a différents niveaux d'urgence quand on est sur un bateau, quand il y a un péril imminent et grave et imminent, on envoie un Mayday ou un SOS en Morse. Quand on a un problème enfin, sur le navire, notamment de moteur, on envoie un panne-panne. Panne-panne, c'est qu'on le moteur est en panne. Et le Mayday, c'est venez m'aider. Qui, au début, les premiers Anglais, quand ils ont entendu des Français dire venez m'aider, ils n'ont pas compris, mais qu'est-ce qu'il veut? Donc c'est resté le m'aider, m'aider.
Voilà,
Venez m'aider. Et le troisième niveau d'appel sur un bateau, c'est les messages de sécurité. Et donc, quand on envoyait un message de sécurité, par exemple, je ne sais pas quoi, il y a un iceberg qui se balade, ben on envoie un message de sécurité en disant, il y a un iceberg qui se balade à telle longitude, telle latitude. Voilà. Et donc, pour envoyer un message de sécurité, eh ben on envoie sécu pour sécurité. Et donc sécu, ça voulait dire appel à tous, ou tout au moins, comment dire, je communique à toutes les stations qu'il y a un danger à tel endroit. Voilà à quoi, d'où vient le mot sécu. Et c'est pas le CQ, le CQ, c'est l'appel de sécurité. Puisque, encore une fois, les appels de détresse proviennent du français. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ce sont des mots français traduits un peu comme le Mayday exact, qui vient de une mauvaise interprétation d'anglophones qui ne comprenaient pas les Français. Enfin voilà. Mais en tout cas, à chaque fois, ce sont des mots français qui sont à l'origine de ça. Et pan-pan, c'est pareil. Hein. Pan-pan, un anglais ne veut pas dire mon bateau est en panne. Donc voilà, tout ça, c'est des vieilles habitudes. Et puis, même chose pour le séparateur entre l'indicatif appelé et appelant, entre les deux, on met « de » et non pas « from » en anglais. Alors, pourquoi « de » ? Parce qu'en plus, en morse, ça se fait très rapidement.
Que « from »,
avec le « o » et le « m », ça n'en finit pas. on ne va pas revenir sur les autres abréviations, il y en a autant qu'on en veut, et même encore plus, puisqu'il y en a qui sont écrits dans la recommandation, et puis d'autres qui ont été inventés, entre guillemets, par les radioamateurs au fur et à mesure des trafics. Il faut connaître, il faut avoir ce que c'est que ces codes-là. Il y avait aussi le code 92 qui était utilisé par la Western Union. Alors, c'était pas encore de la radiotélégraphie, c'était de la télégraphie filaire. Et là, c'est pareil, on essayait d'aller au plus vite. Et notamment les formules de politesse à la fin des télégrammes, plutôt que d'écrire je sais pas quoi. Meilleure salutation, et à ce moment-là, ça prenait trois plombes à écrire, eh bien, il y avait des codes qui permettaient de fluidifier le trafic, et on mettait 73. 73, ça s'était traduit par les personnes au télégraphe en disant « meilleure salutation ». Et 88, c'était affectueusement, ou bise, ou ce que tu veux. Donc, il y avait comme ça 92 codes, qui était numéroté de 1 à 92 pour les phrases typiques, soit
le train arrive à l'heure,
le train, voilà, du style le train arrive à l'heure, ou bon anniversaire, ou je sais pas quoi, moi. Enfin, des phrases qui étaient très très courantes et qui permettaient de gagner un peu de temps dans le trafic. Mm-hmm. Et enfin, le code Z. Alors là, tous les militaires le connaissent, mais rarement utilisé par les radioamateurs. Pourquoi ? C'est que, au départ, ça a été créé par la Cable and Wireless pour des besoins commerciaux encore dans les années, au 19e siècle, et puis abandonné avec le code Q, donc en 1927, qui est arrivé en 1927. Mais pour autant, ça a été repris par l'OTAN, par l'armée soviétique, qui l'a un petit peu modifié, et qui, les soviétiques utilisaient un code Z, l'OTAN un autre code Z, etc., donc difficile de s'y retrouver, mais par exemple, dans le Cable and Wireless ZAL, ça voulait dire modifier votre fréquence d'émission, donc c'est devenu le QSY. Et alors je suis pas sûr que dans le code Z de l'OTAN, le ZAL ait gardé la même signification. En fait, l'idée, c'est de commencer, enfin, déjà, ce ne sont que trois caractères qui commencent tous par la même lettre. Comme ça, dans un texte, on les reconnaît facilement. Parce que des mots avec un Z ou un Q, il y en a qui commencent par un Z ou un Q, il y en a assez peu. Et donc, quand on voit un mot qui commence par un Z avec trois lettres, ou un mot qui commence par un Q avec trois lettres, on se dit, c'est un code.
Ouais, il y a déjà pas mal de combinaisons possibles.
Et là, il y a toutes les combinaisons possibles. Déroulement d'un contact, quelques questions dessus, assez peu, mais bon, il y en a quand même. Alors, en moyenne, il doit y avoir sur cette partie-là au moins une question par épreuve. J'ai bien dit en moyenne. Si bien qu'il y a des fois, bah, il n'y en a aucune, et puis d'autres fois, il y en a deux. Hein. La décision ARCEP, donc, qui nous régit, qui détermine les conditions d'utilisation des stations radioamateurs, elle nous impose plusieurs choses. Premièrement, il faut transmettre l'indicatif à de courts intervalles. Ça, c'est à de courts intervalles, c'est le texte de l'UIT, le RR, qui nous dit que il faut transmettre l'indicatif régulièrement. Point barre.
En cours de communication.
Oui. Mais sans plus d'explications. Et le texte français, lui, donne un peu plus d'explications et il dit quoi? Il dit qu'il faut transmettre l'indicatif au début et à la fin de toute période d'émission, et au moins toutes les 15 minutes. Donc typiquement, moi là, par là, je pars depuis 1 heure, eh bien je n'ai pas donné mon indicatif, c'est pas bien. Donc je le donne, F6 KGL opéré par F6 GPX.
Voilà.
Voilà, c'est fait. Mais il n'y a que pendant ce cours-là que j'y pense. Après, j'oublie. Et donc ça, c'est valable pour toutes les stations, y compris les satellites. Donc quand le satellite émet, il est obligé de donner au début son indicatif, à la fin son indicatif, mais surtout les relais. C'est pour ça que dans les relais, vous avez aussi, alors ça peut être aussi donné en morse ou en téléphonie. Selon le relais, il y a des relais qui envoient leurs données en morse et d'autres en téléphonie. Mais en tout état de cause, cette obligation, elle est valable pour toutes les stations radioamateurs françaises. Et en cas de changement de fréquence, en fait, c'est comme si on reprenait une période d'émission. Hein, donc dans ce cas-là, eh bien, à la fin, avant de changer de fréquence, on donne son indicatif. On change sa fréquence
On redonne.
et on redonne son indicatif. Voilà. Et évidemment, à la fin, on redonne encore son indicatif une fois qu'on repasse en émission. En réception, pardon. Important aussi, c'est bête, mais voilà, c'est mieux. Ça va mieux en le disant. Il faut s'assurer que les émissions ne brouilleront pas des émissions déjà en cours d'autres utilisateurs radioamateurs.
Écoutez.
Voilà, donc,
Ou
première
alors.
chose, avant de passer en émission, on écoute la fréquence.
Alors, ça peut marcher ou pas. Si
Ah ben oui.
on est loin, il y en a un entre les deux,
Ben oui.
on n'entend pas l'autre à l'autre bout.
Ben oui. Ça peut poser problème. Et c'est pour ça que. Non seulement on dit ça, mais en plus, enfin, avant de lancer appel et de parler pendant des heures, on demande est-ce que la fréquence est libre? Parce que peut-être qu'on ne peut pas entendre le correspondant, mais que ça va gêner un autre
Il communique
qui
déjà.
communique déjà. Mais bon, voilà, ça, c'est pas. C'est du bon sens, quoi.
La courtoisie.
C'est de la courtoisie, c'est du bon sens. Évidemment, on ne peut pas utiliser la même fréquence en permanence, même si c'est un petit peu ce que je fais, mais je le fais qu'une fois par semaine. Voilà. Et enfin, alors j'ai mis ça à cet endroit-là parce que je ne savais pas trop où le mettre. Il faut communiquer à la NFR, à sa demande, les informations concernant les logiciels et protocoles utilisés, puisque c'est ce qui va être demandé en cas de brouillage. Si vous avez un dossier de brouillage, si vous brouillez quelqu'un, on peut vous demander des informations et que ce brouillage provient d'un logiciel, oui, de transmission numérique, eh bien, on va pouvoir vous demander des informations sur le logiciel et les protocoles utilisés. Voilà. Important aussi, ce qui est codifié, finalement, pour nous, c'est la fréquence d'émission. Je rappelle.
On n'est pas en duplex.
Voilà. Je rappelle que l'écoute est libre. Donc on peut écouter ce que l'on veut. Par contre, voilà. Ce qui est réglementé, c'est le côté émission. Et donc, par conséquence, on peut utiliser deux fréquences différentes, une pour l'émission, l'autre pour la réception. On n'est pas obligé d'être en alternat. On peut être en duplex sur deux fréquences différentes, une à l'émission, l'autre à la réception, ou faire de l'alternat sur deux fréquences différentes. D'accord ? Typiquement, quand on trafique ce qu'on appelle en split, alors en split, c'est pas vraiment du duplex, c'est on est sur la même bande, et notamment quand il y a des stations très, très demandées, en fait, tout le monde appelle autour, hein, s'étale sur jusqu'à 10-20 km, kHz, avant, enfin généralement c'est plutôt up, c'est plutôt au-dessus, et donc essaye de contacter la station, et la station répond sur sa fréquence d'émission, et donc il faut être à l'écoute de cette fréquence de réception, à l'écoute de la station sur une autre fréquence. Alors sur le contest, oui et non, oui, il peut y avoir, mais généralement, le split c'est plutôt hors contest. Parce que sinon, là, si on fait ça pendant les contests, ça va être compliqué à gérer. C'est plutôt des stations qui font des expéditions qui sont très demandées. Ouais. Alors, donc ça, c'est le split. Le split, c'est sur la même bande. Et on peut aussi le faire sur deux bandes différentes. Ça s'appelle, dans ce cas-là, du cross-band. 144-432. Ça marche très bien. Ou deux bandes décamétriques différentes. Le problème du décamétrique sur deux bandes différentes, c'est que peut-être il y a des conditions de propagation qui ne sont pas les mêmes. Donc ça peut être plus compliqué. Et puis, typiquement, tout ce qui est trafic via relais, transpondeur, satellite, tout ce que l'on veut, il y a systématiquement une fréquence up pour envoyer vers le relais, vers le transpondeur, vers le satellite, et sur laquelle on émet, et une fréquence down où on écoute. Donc voilà. Donc un relais, c'est sur Terre, un transpondeur, c'est plutôt sur deux bandes différentes, c'est un relais mais avec deux bandes différentes, alors qu'un relais, c'est sur la même bande avec un écart de fréquence, qui doit dépendre de la bande utilisée. 600 kHz sur 2 mètres et 9 MHz sur 432. Et puis le satellite, qui a une bande up, une bande down. Et donc, ces utilisations, évidemment, elles sont autorisées sous réserve d'émettre dans les conditions utilisées par la classe d'opérateur. C'est-à-dire que ben maintenant, les classes d'opérateurs, elles ont droit d'émettre dans toutes les classes d'émissions, donc ça ne pose pas de problème. Ça pose juste problème pour les F0, donc les novices, pour lesquels ça existe toujours, puisque ceux qui n'ont pas passé la partie technique de l'examen gardent leurs prérogatives comme avant. Et donc, quand on est F0, eh bien, on a des classes d'émissions qui sont limitées. On a une puissance limitée aussi à 10 watts. 10 watts sortie d'émetteur, mais rien n'empêche de mettre une antenne qui a du gain derrière. Et puis la bande, puisqu'ils ont droit qu'au 144. Voilà. Mais typiquement, un F0 peut faire du satellite, puisque en règle générale, la fréquence up, c'est 144 pour un satellite, et la fréquence down, c'est 432. Pour d'autres satellites, c'est d'autres fréquences. Donc, par exemple, le 70 cm et le 1 giga 2. Là, évidemment, là, ils sont coincés. Ils ne peuvent pas le faire. Mais si ils sont en up sur 144, ça fonctionne. Ils ont droit de le faire. Les signaux de détresse, on en a parlé rapidement. C'est les signaux de détresse. Donc le SOS, le Mayday, etc. C'est décrit dans l'annexe 13 du RR, laquelle annexe 13 a été abrogée en 2007. C'est-à-dire que les signaux de détresse ne sont plus définis par le RR, puisque depuis au moins l'an 2000, il y a un programme qui s'appelle le GMDSS, qui fait en sorte que les signaux de détresse ne sont plus émis par la voix ou par le manipulateur, mais par un système qui s'appelle l'ASN. Donc l'appel sélectif numérique. Dans le cadre, alors le GM, donc c'est le global, je ne sais plus ce que c'est. Enfin, c'est le GMDSS, c'est le système d'appel de détresse international. Et donc c'est une machine qui génère ça. Et si c'est pas une machine, eh bien ce sont des procédures radiotélégraphiques ou téléphoniques qui sont donc
Michel peut parler quand il est en Algérie,
ouais.
dans les casbahs où fallait, les endroits où il fallait mettre une protection. Vous avez un émetteur comme ça d'urgence, qui tire une ficelle, je ne sais pas,
Ah oui.
ça
Et
partait
ça partait, ouais.
à la caserne
Oui, oui, oui.
proche.
Mais ça, c'était. Mais c'était enfin, c'était pas obligatoire. Mais ça a été.
C'est vrai qu'il était bien content d'avoir ça quand
Oui,
même.
peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que ce système d'ASN a été mis en place de manière internationale. De mémoire, c'est 98. C'est pas si vieux que ça. Auparavant, y avait plusieurs systèmes.
C'était un système similaire,
Oui, mais peut-être, mais fabriqué, mais uniquement pour la France, pour l'armée française.
oui. Et donc
Alors que
c'était du
là,
matériel.
ce dont je te parle, c'est un système qui est mondialement. C'est-à-dire
D'accord.
qu'en ASN, c'est des petits talkie-walkie, et tu as, sur les bateaux, c'est le fameux bouton rouge là, qui est toujours protégé, que tu ne peux pas mettre en route facilement.
Comme l'appelle Pompil, quoi.
Ouais, exactement. Et donc, surtout ces talkie-walkie, de toute façon, c'est marqué
Appel de secours.
appel de secours, voilà. Et tu n'utilises plus Canal 16 sur un bateau. Ou tout au moins, si tu utilises le Canal 16, c'est que ton ASN, soit t'en as pas, ou. Voilà. Mais normalement, les bateaux professionnels, il n'y a que les touristes, les bateaux de tourisme, les plaisanciers, qui ne sont pas obligés d'avoir un ASN, quoique les gros bateaux de plaisance, ils sont obligés de l'avoir. Mais si tu as un petit talkie-walkie sur ton Zodiac, t'es pas obligé d'avoir un ASN. Mmh. Parce que ça coûte quand même assez cher, ces petits matériels-là. Ça coûte beaucoup plus cher qu'un petit Okiwolki. Et le canal 16 est toujours écouté par les stations de, par les stations terrestres et par les crosses.
Sur le connecteur de programmation, tu pourrais mettre un
ah bah oui, oui, un adaptateur. Oui, oui. Ah oui, mais ça, en plus, on en vend. Hein. Ils en vendent de ce genre de choses.
Ah, d'accord.
Alors, l'article 1 de la décision ARCEP 12-1241 rappelle les dispositions du RR. Les transmissions entre stations radioamateurs doivent se limiter à des communications en rapport avec l'objet du service d'amateur. Oui, là, on est passé au teneur des conversations. Bon, ça semble bête, mais enfin, bon, évidemment, on ne va pas parler
du voisin.
Déjà du voisin, ni du jardinage, ni, et encore moins évidemment, de politique. Voilà.
Demain, non.
Voilà, donc, bon, ça semble peut-être évident, mais voilà, c'est mieux de le rappeler. Donc, voilà, on a droit au... que des sujets en rapport avec le service d'amateur ou à des remarques d'un caractère purement personnel, mais voilà, peut-être la météo, pourquoi pas. La météo a peut-être quelques effets sur la propagation, donc allez, ça a un peu rapport avec l'objet de notre service, mais vraiment, faut chercher loin, quoi.
C'est un orageux, il y a du QRL.
Ouais, allez, allez. L'orage, à la limite, je veux bien. Mais la température de l'air, on s'en fout complètement. Autre chose qui est rappelée dans l'article 1, c'est qu'il est interdit de coder les transmissions entre des stations d'amateurs pour en obscurcir le sens. C'est-à-dire que ça doit toujours être clair. Alors, que vous utilisiez un code parlé, en disant, je ne sais pas quoi, voilà, le push-pull ou autre, alors évidemment, tout le monde comprend ce que ça veut dire, mais enfin, voilà. Ou le QRM22 pour dire, attention, la ficaille arrive. Ou QRM Kaki, voilà. Bon, voilà, ça obscurcit le sens, mais on arrive à comprendre. Mais normalement, c'est interdit, et évidemment, il est interdit aussi de coder les transmissions numériques. Coder veut bien dire, dans ce cas-là, crypter. C'est-à-dire faire en sorte que les autres ne puissent pas comprendre ce que l'on dit. Seule exception, ce sont les signaux de commande entre des stations terriennes de commande et des stations spatiales du service d'amateur. Parce que, je le rappelle, les stations spatiales, donc les satellites, doivent être arrêtés tout de suite dès qu'il y a un soupçon de brouillage. Et pour cela, eh bien, la seule solution, c'est d'envoyer un signal de commande depuis la Terre, mais ce signal, évidemment, doit être crypté. N'importe qui ne peut pas arrêter ou faire redémarrer un satellite. Ça serait, alors là, ça serait déjà que c'est compliqué, là, ça serait encore plus compliqué.
On voudrait éviter le réservoir de...
Voilà, donc voilà. Donc la seule exception, c'est la commande des satellites. Et donc encore une fois, n'oubliez pas que le mot codage, là, d'ailleurs que ce soit dans les textes français ou dans les textes internationaux, quand vous voyez en français le mot codage, vous devez traduire ça par cryptage. C'est-à-dire faire en sorte que le codage, ça ne soit valable que pour votre correspondant. Alors qu'un, si vous pouvez coder, si la clé est publique, il n'y a pas de problème. Si la clé de codage est publique, pour moi, le codage, ce n'est pas du codage.
Il n'y a pas de cryptage.
Voilà. C'est bien, il faut bien... faut bien avoir ça en tête. Concrètement, encore une fois, dans la décision ARCEP, on rappelle aussi une disposition du RR qui dit que les stations d'amateurs ne peuvent être utilisées pour transmettre des communications à provenance ou à destination de tierces personnes non radioamateurs. Ça semble con, mais notre objet, ce n'est pas de transmettre des messages, et encore moins des messages qui pourraient être rémunérés. Voilà. Seule exception, et donc en fait, on ne peut donner d'informations que sur soi-même. Alors, évidemment, on peut donner des nouvelles d'un copain, mais normalement, on est limite réglementation.
On peut décrire la station.
Alors, on peut décrire sa station, oui, il n'y a pas de débat. Mais décrire la station du voisin, là, et quant à passer le message de dire tout va bien et passer le message à la famille en disant tout va bien, là, c'est pas bon ça. Alors, exception dans des situations d'urgence ou pour les secours en cas de catastrophe. Ça, c'est typiquement le trafic. En cas de situation d'urgence, donc c'est la fameuse résolution 646, où en cas de catastrophe, les radioamateurs sont là pour écouler le trafic et soutenir un petit peu les opérations de secours, parce que justement, c'est fait pour ça. Voilà. Donc c'est la seule exception. Et d'ailleurs, c'est rappelé dans l'article S25.3 du RR. Concrètement, pour nous, les conversations autorisées. Alors, cette liste-là, en fait, elle est issue d'un bouquin qui avait été édité à l'époque par le CSA, qui était notre autorité de tutelle dans les années 90. Et donc le CSA, pour essayer, parce que c'est pareil, on avait un texte qui était très light, et donc le CSA avait sorti un bouquin qui déterminait la partie et technique et réglementation, et qui permettait d'avoir un support pour qu'est-ce qu'il fallait savoir pour passer l'examen. Parce que c'était pas juste la liste du programme AREC, c'était avoir quelques informations complémentaires. Et donc le CSA avait sorti ce bouquin-là, et dedans il y avait notamment expliqué qu'est-ce que l'on pouvait avoir comme conversation en fréquence. Et donc il y avait cette liste-là, et uniquement ça. Donc on peut parler de radioélectricité. Ça, c'est bon.
La vie associative
D'informatique, pourquoi pas. Astronomie et météorologie, j'ai bien dit astronomie et pas astrologie. Hein, ça, c'est un des pièges de l'examen. Et météorologie, même si la météo n'a pas une grosse incidence sur la propagation, elle en a une petite, donc on peut l'utiliser. Astronomie. C'est plutôt astronomie, le Soleil,
Oui.
que les planètes. Peut-être la Lune, quoi que je ne me trompe.
Si, il y en a qui font des émissions
Ah
via
oui, d'accord, oui, d'accord, ok. Voilà. Et puis astronomie, peut-être que les satellites rentrent là-dedans, enfin, sans être certain. Mais voilà, pourquoi pas d'astronomie. Voilà. Le contenu d'une revue technique. Sans pour autant faire de publicité pour cette revue. C'est-à-dire que voilà, on peut dire bah, j'ai vu dans telle revue un article, regardez-le pour avoir plus d'informations sur ce sujet. Évidemment, c'est une revue technique de radioélectricité, tant qu'à faire, c'est mieux. Hein? On peut parler de réglementation, c'est super. On est en plein dedans. De vie associative, ça me semble légitime. Adresse et numéro de téléphone personnel, donc les nôtres, mais en aucun cas ceux de tiers, sauf, encore une fois, dans le cas des opérations de secours. Et puis enfin, faire du radioguidage.
C'est-à-dire le mettre des paumés, la table dans le
ouais.
GPS.
Ouais.
Il va jusqu'à la rue machin.
Ouais. Ouais. Le pont, voilà. Donc le radioguidage est autorisé. Alors là, on est quand même limite par rapport à ce que définit le RR, c'est-à-dire que ce sont des conversations techniques.
Eh bien, les civils en ont beaucoup plus, hein.
Oui, mais c'est pas réglementé, donc c'est open bar. Hein. Donc voilà, et évidemment, il y a quelques questions dessus à l'examen français, enfin à l'examen actuel, et qui est issu de ce texte, qui, voilà, qui est assez ancien, enfin de ce bouquin qui est assez ancien et qui évidemment on ne trouve plus du tout. On cherchant sur internet, on trouve des PDF, hein, pas de problème. Mais on ne le trouve plus de manière, en braille, quoi. Et je suis même pas certain. Ah si, de toute façon, il était vendu en plus. Il était vendu pas cher, mais il était vendu. Petit rappel sur le teneur des conversations, donc depuis 1990, donc ça fait quand même 40 ans quand même, hein. Non, 30 ans, pardon, le temps passe vite, depuis 30 ans l'écoute est libre en France, mais évidemment on doit veiller au respect des correspondances, captées volontairement ou non, et ça on arrive sur le code pénal. Qui dit code pénal dit prison et amende. Et juge.
Et éventuellement réquisition de...
réquisition du matériel. Oui. C'est ça. Et donc ce 226 du code pénal, précisément le 226-15. Alors le 226, c'est tout ce qui est attrait à la vie privée. Hein, le code pénal, le L226, c'est toute la vie privée. Et le 226-15, c'est le secret des correspondances. Et quand on parle du secret des correspondances, c'est les correspondances électroniques, mais aussi les correspondances postales. Le fait d'ouvrir le courrier de votre voisin, c'est pareil.
Bon.
Hein? Et que ce soit volontairement ou non. Donc même si le facteur met par erreur le courrier de votre voisin dans votre boîte à lettres, vous n'êtes pas censé l'ouvrir. Et si vous l'ouvrez, un an d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende. Bon, il faut aller loin quand même. Mais voilà, c'est le risque. Et donc, pour notre secret des correspondances et notamment... par voie électronique, donc pas spécialement par voie postale, mais par voie électronique. Et par voie électronique, donc c'est par radio, mais pourquoi pas aussi si vous récupérez une adresse IP ou je sais pas quoi, moi.
Oui.
Donc, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, le fait commis de mauvaise foi, quand même, y aller, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions. Donc, si vous captez une correspondance, évidemment, vous ne pouvait pas la diffuser partout comme ça. Et pour aller jusqu'au... Donc ça, c'est le 226.15, donc c'est l'article de loi. Et derrière, pour faire appliquer ce 226.15, eh bien, il y a un texte qui a été vu en Conseil d'État, le R226.7. C'est un règlement. C'est pas un décret, hein, donc c'est les fameux décrets en Conseil d'État, donc c'est un règlement. Et qui, lui, va parler de l'acquisition et de détention de, d'appareils permettant l'exploration manuelle ou automatique des fréquences, en clair, les scanners. Et je dirais même que n'importe quel appareil moderne, récent, a une fonction scanner. Hein. Ça scanne tout, il s'arrête aux endroits où, alors soit aux endroits où il n'y a rien, ou au contraire, enfin selon ce que l'on veut faire. Et donc, à partir du moment où l'appareil permet cette exploration manuelle ou automatique des fréquences, eh bien, en théorie, il faudrait demander l'autorisation d'utiliser ce matériel auprès du Premier ministre. Autant dire que personne ne le fait.
En période de Covid...
Personne ne le fait. Et pourtant, le R226.7 du Code pénal dit que l'acquisition ou la détention de tout appareil figurant sur la liste mentionnée au R226.1 est soumise à autorisation délivrée par le Premier ministre. Donc, l'acquisition ou la détention, il faut demander au Premier ministre, et plus précisément, c'est à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité qui est chargée de protéger les citoyens contre tout enregistrement de communication. Donc, c'est concrètement, c'est cette commission qui est rattachée au Premier ministre qui donne les autorisations. Je peux vous affirmer que peu de gens demandent une autorisation. Et c'est un petit peu... Alors vous me direz, oui, c'est l'acquisition et la détention. Mais la vente de matériel, elle est libre. C'est-à-dire que vous pouvez acheter le matériel, mais surtout, il faut le laisser dans le placard.
Ou à la vitrine du...
Voilà. Et pourquoi ? Parce que c'est quand même un petit peu du foutage de gueule, ce truc-là. Et en fait, c'est une conséquence de deux jugements, en correctionnel quand même, donc ça avait été quand même assez loin, puisque en correctionnel, ça veut dire qu'il y a des gens qui avaient été pris la main dans le sac et qui avaient été amenés devant un juge. Et qu'on leur avait dit, bah, monsieur, ça va être un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Et donc, ça a été jusqu'au tribunal, donc au tribunal correctionnel, donc de Dijon, le 20 décembre 2000, et il y a eu un arrêt, et ça, c'était un arrêt du Conseil d'État, du numéro 0201, donc ça, c'est. Donc 02, c'est l'année, donc du 9 janvier 02. Donc c'est deux jugements qui disent que on ne peut pas entraver la mise sur le marché de matériel portant le logo CE. À partir du moment où le matériel, il y a marqué CE dessus, eh bien, il est autorisé à la vente.
Et ça ne contredit pas le...
Ah bah non. Ah non. Tu peux le vendre, mais tu n'as pas le droit d'utiliser.
Bon. Mais par contre, si faut regarder qu'il y a une étiquette CE dessus, là.
Ah bah oui, mais tu vas toujours trouver l'étiquette CE. Apposée par le balayeur de la société qui aura fabriqué le matériel, puisque... Pour que ce soit du matériel vendu en Europe, il faut qu'il y ait le logo CE.
Oui, sinon ça passe pas la douane. Là.
Sinon, ça passe pas la douane. Donc, voilà, c'est un petit peu du foutage de gueule. Mais, alors, heureusement, pas de questions là-dessus. Mais ça a fait grincer de temps en temps les dents.
Autant dire que notre Baofeng,
Ah bah,
il n'a pas ça et on s'en sert pas.
non. Et évidemment, je vous, si vous allez vous dire, enfin vous dénoncer à la gendarmerie ou n'importe où en disant j'ai un scanner, je veux faire ma déclaration, tout le monde vous regarde, mais qu'est-ce que c'est que ce
Pour t'éviter des emmerdes, je le laisse là. Ça, c'est comme les couteaux.
Donc voilà, c'est
Le
un truc
droit à
assez.
l'opinal, mais pas au point d'arrêt.
Voilà, bon. Bon, c'était juste pour le fun, hein. Les questions à l'examen. Donc voilà, l'épellation, soit on vous demande de comment on épelle une lettre. Donc par exemple, G et Y. Bah, évidemment, c'est Golf et Yankee. Les autres, Gomina Yellow, Gulfstream, Hyperhit, Golf et Yaka. Voilà, c'est pas.
Ah oui, il y a qu'un.
Voilà, le gros Yaka, il est bien connu celui-là.
Il y a pas de faire aussi.
Voilà. Donc Golf et Yankee. Et puis F6 MTO. Voilà. Donc là, on fait le jeu des 7 erreurs, là, et puis on cherche le bon. France, c'est pas bon. Là, Foxtrot, Charlie, 6, Mike, Tango, Oscar. Ah, ça, c'est bon. Ça semble bien. On vérifie quand même, des fois qu'on est lu trop rapidement. Foxtrot, 6, Charlie, micro, pas bon. On
Micro,
jette.
c'est Mike.
Foxtrot, Charlie, 6, micro, Tango, orange, c'est pas bon. Donc c'est celui-là le bon. Ah, j'étais un peu vite. Là, c'est, il y a 6, enfin, grosso modo, il y a à chaque fois deux questions là-dessus, pour faire simple. Et donc, ce sont deux points faciles à récupérer. Et juste pour votre information, par exemple, cet indicatif là, il n'a jamais existé. Alors, d'une part, parce que avec les 6, on n'a jamais été jusqu'à la lettre M. On s'est arrêté de mémoire au J. On n'a pas été au-delà. Après, on est passé au F5. Et puis d'autre part, enfin, y a jamais eu la lettre C en deuxième position. Il y a pu y avoir la lettre D ou la lettre E. Et s'il y avait la lettre C à un moment où c'était attribué à la Corse, derrière, il n'y avait que deux lettres et pas trois. Donc, cet indicatif ne peut pas exister, n'a jamais pu être délivré. Des questions sur le code Q. Donc, alors, autant il n'y a pas de. Enfin, les questions, c'est toujours dans le même sens, c'est-à-dire qu'on vous donne des lettres comme ça, et il faut trouver évidemment l'alphabet phonétique, donc ça ne marche que dans un sens. Pour le code Q, ça peut marcher dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on vous demande soit la signification du code Q, ou alors comment, quel code on va utiliser pour coder une phrase. Donc par exemple QRK, c'est quoi? Est-ce que c'est le nom de la station, la force des signaux, la position, l'intelligibilité? Donc c'est le QRK, c'est l'intelligibilité dans le code Q officiel, et ses forces des signaux dans le code Q des radios amateurs. Mais ce qui est important, c'est le code officiel. Quel est le code pour vous êtes appelé par HB9XYZ? bah, vous êtes appelé, donc c'est QRZ, puisque QRZ, point d'interrogation, c'est par qui suis-je appelé. Donc la réponse c'est vous êtes appelé par HB9XYZ. Et quel est le code pour la force de vos signaux varie? C'est le QSB. Voilà. Et encore une fois, ce sont des points faciles, donc il ne faut pas lésiner sur apprendre ces 12 codes Q. Ça serait dommage de passer à côté. Déroulement du trafic ou déroulement d'un contact et teneur des conversations. Donc, première question, on doit donner son indicatif au début du contact, au début à la fin du contact, au début à la fin de chaque période d'émission ou quand la station contactée le demande. Évidemment, c'est au début et à la fin de chaque période d'émission. Le contact, ça serait... Je le donne au début, on se repasse le micro plusieurs fois et je ne le redonne qu'à la fin, c'est pas bon. C'est toute période d'émission. Quel est le sujet de conversation autorisé lors des liaisons en radio? Réglementation radio amateur, adresse des amateurs de la région, surtout pas. Éditeur de livres techniques, non, vaut mieux pas, puisque si on donne l'éditeur, c'est qu'on veut faire de la publicité pour une revue. Et évidemment, on ne parle pas non plus de médecine naturelle. C'est pas l'objet de notre activité. Donc on ne parle que de réglementation radio-amateur, c'est peut-être pas génial. Il y a sûrement d'autres sujets, mais voilà. En France, l'écoute est... libre, mais il faut une carte d'écouteur. Libre, interdite la nuit et soumise à réglementation. Évidemment, la réponse est libre tout court. L'ANFR peut-elle demander des informations concernant les logiciels et protocoles utilisés par un radioamateur? Non, car le développement de logiciels et de protocoles est libre. Oui, dans tous les cas. Oui, dans le cadre de l'instruction des cas de brouillage, c'est la bonne réponse. Et oui, dans le cas des communications numériques, ce n'est pas bon. Ce n'est que dans les cas de brouillage où l'ANFR peut être amené à avoir des informations sur les logiciels et protocoles utilisés. Voilà les réponses. Et nous arrivons à la fin de ce cours que je vous avais dit que c'était, qu'il n'allait pas durer très longtemps. Et j'ai tenu promesse. Je vous souhaite donc tous un très bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.